Ça joue comme ça. Qui d'entre nous n'a pas besoin de persévérance? Qui d'entre nous, pour rester justement devant sa face, simplement, pour rester connecté au Saint-Esprit, qui d'entre nous n'a pas besoin de persévérance? Pour ranger les clés de la maison, quand on arrive à la maison, à la bonne place. Pour garer notre voiture de façon à ce que les autres qui viennent se garer après nous aient aussi de la place. Pour arriver au bout de notre intention, par exemple, de répondre à un message sans s'égarer 15 fois dans les statuts, dans les photos, dans tout ce qui est venu là entre deux. Ça vous est déjà arrivé? Non. Parfois, je ne me souviens même plus du pourquoi j'ai ouvert mon attel. Et ça, c'est nouveau, c'est quand même maintenant, c'est de notre époque. Donc la persévérance, elle est combattue de plus en plus, je trouve. C'est pas grand-chose, c'est presque rien. Les choses qu'on fait comme ça, c'est... c'est des petites choses. Alors peut-être que vous allez me dire, mais Dora, sois un tout petit peu plus spirituelle. Mais combien c'est difficile de faire les choses jusqu'au bout. Dans la durée, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser détourner. Et combien, par exemple, pour moi, c'est difficile de lire chaque jour. J'ai pris une décision chaque jour, Dora, avant d'attaquer ton assiette à midi, pour te renouveler, parce que voilà, le moment de culte du matin, il a perdu déjà un peu de ses effets. Alors Dora, prends un tout petit moment pour, avant de manger, lire le verset là, le verset du jour sur ton application. Mais combien c'est difficile de prendre, mais c'est quelques secondes avant de prendre ma fourchette dans la main. C'est incroyable. Alors la persévérance, elle n'a plus tellement la cote. Elle n'en jette pas, on ne la voit pas. Alors on se dit, mais puisque personne n'y fait attention, mais pourquoi persévérer? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et puis, il y a aussi le fait que parfois on confond la persévérance puis l'obstination. Chercher absolument à convaincre quelqu'un qu'il a tort, est-ce que c'est de la persévérance? Je crois pas, c'est de l'obstination. C'est de l'obstination. Essayer de retrouver son mot de passe le soir à minuit et demi, c'est même pas de l'obstination, c'est de l'acharnement. Il vaut mieux le faire le jour d'après. Alors c'est quoi la persévérance? Définition. C'est le trait caractéristique d'une personne qui ne dévie pas de son but, malgré les grandes épreuves et les souffrances. Patience, constance, endurance, fermeté, cela signifie aussi garder, retenir, ne pas se détourner. Alors, est-ce qu'une attitude de persévérance, c'est seulement serrer les dents? Attendre que ça passe. Est-ce que c'est juste endurer, se dire « ça va aller, allez, un pas après l'autre, ça va aller » Est-ce que c'est se résigner? Tant bien que mal avancer. Mais dans notre vie quotidienne, si c'est vraiment ça, notre attitude, c'est notre vie risque de devenir tellement sèche, tellement dure, tellement décourageante. Est-ce que l'endurance, c'est pas aussi autre chose? On a tous besoin de persévérance. Hébreux 10, 36 dit, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Et je crois que si cette persévérance, elle est tellement importante aux yeux de Dieu, c'est comme si c'était aussi une caution, comme quand on donne une caution, hein, quand on a, ben moi quand je vais par exemple à la patinoire, je donne une caution parce que je sais plus pourquoi, mais en tout cas je dois donner ma carte comme une caution. Vous savez tous ce que c'est, mais c'est une caution qu'on retrouve après. La persévérance, c'est quelque chose qui est non seulement valable pour aujourd'hui, mais vous verrez, à la fin du message, c'est quelque chose que Dieu vous redonne, surtout pour les temps qu'on vit. On va lire un texte intéressant à propos de la persévérance, c'est Hébreux 12:1. Hébreux 12:1. Vous le connaissez sûrement. Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. On ne peut pas se tromper là, on est vraiment dans une épreuve. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas une promenade. Et puis, cette épreuve, elle n'est pas d'aujourd'hui, il y en a tellement d'autres, on le voit dans le texte d'avant, qui l'ont vécu au travers des siècles. Tellement d'autres, tellement de prénoms qui sont cités, des héros de la foi. Et puis, ce qui est étonnant ici, c'est ce mot courir. On peut se dire, mais ce n'est pas pour moi, j'aime pas courir. Mais ce mot, il a une connotation de s'entraîner, lutter durement, mettre toutes ses forces. Et puis, dans les écrits grecs, courir, ça signifie aussi encourir un énorme péril, un péril extrême, qui nécessite tous les efforts pour être surmonté. Ça va beaucoup plus loin que courir. Alors, nous, il est parlé de nous, tous ensemble. Ça m'a fait tellement plaisir qu'on se donne tous la main. Parce que dans ce texte, c'est nous, tous ensemble, qui sommes concernés. Jeunes, vieux, forts, faibles, sportifs ou pas. Nous avons à courir une épreuve finalement qu'on a choisie. Il n'y a rien qui nous tombe dessus comme ça. Si, parfois. Mais en choisissant Christ, quand le moment où on a dit Seigneur, viens dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, on a choisi l'épreuve. On l'a choisi. Personne nous a forcés. Alors, j'aime bien dans ce texte, il y a des préliminaires avant le départ, il y a juste deux conditions comme ça, entre parenthèses, deux conditions avant d'entrer dans l'épreuve. Si on regarde bien, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hein, c'est difficile de trimballer dans une épreuve le fardeau et le péché. Ça va être difficile. Parenthèse fermée. Et puis ensuite, des précisions sur comment courir. Pas seulement courir, mais courir avec persévérance. Et puis, en gardant les regards sur Jésus, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait regarder, sur ce qu'il fait maintenant. Il fait naître la foi et l'amène à la perfection. Mais aussi sur ce qu'il a déjà fait. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et puis c'est sur ces deux choses, la persévérance en regardant Jésus, en fixant les regards sur Jésus, que j'aimerais m'arrêter ce matin avec vous. Moi, ce qui me frappe, c'est combien la persévérance, elle est liée au regard sur Jésus. Est-ce que vous êtes tous allés au moins une fois aux Jeux Olympiques? Bien sûr. Non. Au moins, est-ce que vous avez suivi ou vous suivez les championnats d'Europe d'athlétisme actuels à Munich, au stade olympique? Qui les regarde? Ah ouais. Eh ben, dans 1 Corinthiens 9:24, c'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul y fait une analogie avec les Jeux olympiques. Il fait une comparaison. Il dit « Je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas comme pour battre l'air. » Et puis, puisqu'il s'adresse aux Corinthiens, eh bien, il illustre son propos en utilisant les Jeux olympiques qui ont commencé à l'époque à Corinthe et qui sont devenus rien de moins que nos Jeux olympiques actuels. Voilà. Alors, il y avait là des courses de chars attelés, il y avait du lancer du disque, du lancer du javelot, il y avait de la lutte, de la boxe et du saut, il y avait toutes sortes de choses déjà, et entre autres la course à pied. Alors, ça rigolait pas, c'était féroce. Je sais pas pourquoi on les a appelés les jeux, parce que c'était féroce, il pouvait y avoir des morts, en particulier dans les courses de chevaux. C'était une préparation physique incroyablement exigeante. Alors, si on revient à l'épreuve de la course à pied, bien, il y avait dans le stade de la course à pied, au bout de la piste, un immense pilier en pierre, en je sais pas quoi. Et ce pilier, ben ça voulait dire, c'est là mon objectif. Les coureurs, ils étaient tout le temps, ils avaient tout le temps la possibilité au début de la course, pendant la course, presque arrivés au but, ils avaient cette possibilité de voir, pas seulement d'apercevoir, ce pilier qui marquait le but, l'achèvement, mais aussi qu'il leur donnait du courage pendant les coups de mou, au fur et à mesure qu'ils avançaient, le pilier se rapprochait d'eux, ils pouvaient voir où ils en étaient. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que malgré toute leur préparation physique, malgré tout ce qu'ils avaient fixé dans leur mental aussi, hein, on sait qu'il y a le mental qui entre en jeu, quand on fait une course, eh ben, ils avaient besoin quand même de ce signe tangible. Ça suffisait pas leur préparation. Ça suffisait pas leur musculature. Ça suffisait pas leur force. Ça suffisait pas. Il fallait qu'ils aient ce signe tangible pour leur dire, allez, vas-y, pour pas qu'ils laissent tomber. Imaginez cette foule en délire, ces acclamations, ouais, enfin tout ce qu'on voit, hein. Imaginez les cris, les tout ce qu'on peut voir, hein, pendant les matchs aussi. Imaginez aussi les mots d'oiseaux, hein, parce que la foule est pas toujours sympa, hein. Tout ce qui pouvait les empêcher d'arriver au but. Ou les concurrents qui commencent à dépasser. Ou la douleur musculaire, tout à coup. Ah! Tout à coup, ça bloque. Et les pensées qui viennent, le découragement. Tu vas pas y arriver. Arrête-toi. Alors, en plus de l'énorme effort que ça demandait au niveau physique, moi je pense que le fait de lever les yeux constamment sur ce pilier demandait aussi un effort en soi-même. Demandait aussi de la persévérance. Alors, je pense que je suis pas totalement en dehors de la plaque. Si je vous dis que tous les coureurs parmi nous, je vais pas les citer parce qu'il y en a, beaucoup quand même, les coureurs qui font de la course régulièrement. Eh ben, ils peuvent vous dire que c'est pas le départ de la course qui est décisif. C'est au bout de quelques kilomètres que ça se joue. Au départ, il y a le feu, il y a la motive, hein, c'est pas ça qui manque. Mais quand le coup de mou arrive, qu'est-ce qu'on fait? Quand le cœur n'y est plus, que les pensées commencent à vagabonder, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas un petit peu pareil pour nous? Malgré nos meilleures dispositions de départ, parfois, on se dit, on va servir le Seigneur, on va faire des exploits. Et puis, au bout d'un moment, arrive le coup de mou. Et ce qui va nous permettre d'arriver au but, c'est vraiment la capacité à persévérer. Alors nous, un jour, on a dit oui à Jésus. Oui, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te reçois. On lui a dit oui, ok, je veux courir cette épreuve de foi. Mais est-ce que nous, on n'a pas plus devant nos yeux que ce pilier en pierre? Est-ce qu'on n'a pas plus devant nos yeux? Jésus, il n'est pas hors du stade. Il est dans le stade avec nous. Jésus, il est au bout de la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est lointain, qu'il est distant. Ce n'est pas pour autant qu'il est indifférent. Il n'est pas dans les vestiaires, il n'est pas dans les gradins, il n'est pas spectateur. Notre Jésus, il est avec nous. On peut l'apercevoir en esprit. Et c'est pas seulement ce regard qu'on fixe sur lui, c'est pas seulement pour dire « Ah ouais, Jésus, t'es là, ouf, t'es là hein ». C'est vraiment beaucoup plus que ça. Vous êtes d'accord que pour fixer nos yeux sur Jésus, il faut détacher notre regard. J'étais tellement reconnaissante aussi de t'entendre, André. Pour fixer les yeux sur Jésus, sur notre pilier qui est vivant, on est obligé de détacher notre regard de nous-mêmes. Détacher notre regard de ce qui est autour. Vous êtes d'accord ? Amen. Pour pouvoir le contempler, pour pouvoir se nourrir de sa beauté. Sinon, on ne peut pas se nourrir de sa beauté si on est trop attaché à nous-mêmes. De sa perfection, de ses attributs. On a ici El Shaddai, Adonai, Emmanuel, Jésus, Yahvé. Tous ces noms. Toute sa perfection. Mais vous allez me dire, comment c'est possible quand on se trouve au plus fort de l'épreuve, quand on se trouve au plus fort de la souffrance, de détacher les regards de nous-mêmes? C'est impossible, c'est inhumain. La tension, elle peut être telle parfois qu'on n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, c'était vendredi soir, on a regardé ces championnats d'athlétisme. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu qui a gagné. Oui, c'était l'épreuve du 200 mètres et c'est une Suissesse. C'est une Suissesse, Mujinga Kambudji, qui a gagné. Elle est devenue notre Suissesse championne du monde. Bravo! Bravo! Une magnifique athlète, pleine de muscles, pleine de sourires aussi, au top de sa forme. Et vous savez ce qui m'a frappée? Je pensais pas, hein, mon message je l'avais préparé, mais il y a des semaines et des semaines avant. Mais vous savez ce qui m'a frappée? À peu près au dernier tiers de sa course, il passe les images au ralenti, hein, alors ça déforme le visage. Et au dernier tiers de sa course, elle avait une expression de souffrance, mais intense. Et C'était vraiment, elle arrachait ses dernières forces. Et il y a eu un moment où elle a levé les yeux. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a regardé, je ne sais pas sur quoi elle a fixé les yeux, mais en tout cas, elle a été au bout de l'épreuve et en plus, elle a gagné. Elle a gagné. Alors, dans l'interview qui a suivi, ouais, voilà, ça c'est encore quelque chose. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview qui a suivi. Elle a dit, avec son bon accent suisse-allemand, « J'ai appris à me concentrer sur l'essentiel. Je suis devenue capable d'évacuer tout ce qui m'empêche de me concentrer sur l'essentiel. » C'est fort. C'est fort. Nous, on connaît l'essentiel. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ne lâche rien. Ne lâche rien avant d'avoir levé tes yeux et gardé ton regard sur Jésus. Ne lâche rien dans l'épreuve qui est la tienne. Parce que c'est justement ce regard qui va déclencher l'impossible, qui va déclencher le miracle. C'est là qu'il y aura le transfert. On a ce beau chant qui parle du transfert. C'est là sa présence. C'est là son Esprit Saint qui va te remplir. C'est là, comme il est lui-même la persévérance. Jésus, c'est le Dieu de la persévérance aussi. C'est là qu'il va verser en toi sa substance de persévérance, à ce moment-là. Et qui te donnera la force, la capacité de persévérer. Le texte, il dit bien que c'est lui qui enfante la foi, c'est pas toi. Mais il y a ce regard, entre les deux étapes, il y a ce regard sur lui. Même la meilleure de tes motivations ne pourra pas t'amener au but. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, ne sous-estimons surtout pas ce regard qu'on doit garder, fixé sur lui. Ne surestimons pas nos forces, notre capacité à serrer les dents, à aller de l'avant, à supporter la souffrance, à être concentré. Ça va un moment, ça, mais c'est pas... C'est pas... Je trouve plus le mot. Aidez-moi. C'est pas... C'est... Pardon. C'est pas l'essentiel. Merci. C'est pas l'essentiel. Considère, médite, souviens-toi. Redis à toi-même ce qu'il a fait. Quelle persévérance à nous aimer. Quelle persévérance à nous chercher. Il a eu le Seigneur. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. C'est dit en deux phrases. Ça a l'air d'être tout facile. Mais imaginez Jésus dans le jardin de Gethsémané. Imaginez les grumeaux de sang. Ça sortait de ses pores. Imaginez. Et pourtant, il s'est relevé. Et pourtant, il ne s'est pas arrêté. Et pourtant, il s'est dirigé vers ceux qui allaient l'emmener. Imaginez la persévérance. La persévérance sur la croix, dans la pire des souffrances, dans la pire des hontes, c'était une honte. Il était nu sur la croix. La persévérance. Il entendait des gens qui lui disaient « Mais... tu as tout pour tout en ton pouvoir pour être délivré, pour descendre cette croix. Imaginez la persévérance. La moquerie, la persévérance dans le silence du Père. La persévérance jusqu'au dernier souffle. Voilà celui qui se tient à notre ligne d'arrivée. Est-ce que ça vaut pas la peine de prendre ces moments? Et vous verrez de plus en plus de moments. Ça, un moment, on engrange un autre et puis ça devient une habitude de lever les yeux, de le contempler, de redire ce qu'il a fait, de vous le redire à vous-même, de le redire aux autres, de vous encourager, de tenir ses mains tous ensemble pour arriver au but. Alors, je ne sais pas, quels sont tes défis dans le domaine de la persévérance? Est-ce que c'est cette reprise scolaire? Est-ce que c'est la relation avec Dieu? Est-ce que c'est ta relation avec toi-même, peut-être avec ton prochain? Est-ce que c'est le soin, l'amour que tu mets ou que tu mets pas à faire les choses, les tâches quotidiennes, le service pour Dieu? Est-ce que c'est la poursuite d'un rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Est-ce que c'est l'attente? Cette persévérance, elle est peut-être invisible. C'est pas des paroles, cette persévérance. C'est pas des grands exploits. Qui considère ta persévérance? Dieu la voit. Et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix à ses yeux. Ta persévérance a beaucoup de prix à ses yeux. Ne lâche rien avant d'avoir fixé tes yeux sur lui. Il y a tellement d'enjeux. Et je crois que l'enjeu principal, on l'a aussi tellement reçu dans les cultes, l'enjeu principal, il est dans la pression actuelle qui devient toujours plus forte. Et je vais vous lire ce verset dans Apocalypse 3.10. Apocalypse 3.10, je vais vous lire ce verset qui parle de cet enjeu énorme de la persévérance. Lettre à l'église de Philadelphie, à partir du verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cet enjeu de la persévérance et cette caution que Dieu nous redonne, je te garderai à l'heure de la tentation. Si aujourd'hui il y a ce petit pas de persévérance, si tout à l'heure il y en a un, si toute cette semaine il y en a des pas de persévérance et des regards sur Jésus, vous tiendrez bon, vous tiendrez bon les amis à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Elle est déjà là, mais je pense qu'elle va devenir de plus en plus forte. Seigneur, tu nous vois tous ensemble, ici dans ce lieu, tu nous vois, tu vois ceux qui sont à la maison, tu vois ceux qui s'attendent à toi. Tu nous vois tous dans cette épreuve de la foi, de la vie, du quotidien. Tu nous vois, tu nous aimes. Tu es celui qui nous dit « Je suis là ». Tu es la persévérance incarnée. Tu nous donnes la foi pour faire le pas suivant. Tu nous encourages. Seigneur, je te rends grâce pour qui tu es, pour chacun de nous. Et je te demande ce matin que tu nous fasses la grâce de pas persévérer par la force du poignet ou du mental ou du devoir ou de la résignation. Je te demande que tu envoies sur nous ton esprit de grâce et de persévérance. Que tu nous aides à lever les yeux quand tout nous porte à lever, à nous regarder ou à regarder autour de nous. Que tu nous aides à lever notre regard vers toi. Et merci pour d'avance pour la provision d'amour, de force, de joie, d'espérance que tu vas nous redonner. Seigneur, aide-nous. Merci parce que tu es toujours là dans le stade. Tu as couru la course avant nous. Tu as couru l'épreuve avant nous. Mais tu es toujours là. Indéboulonnable, tu es là. Je t'aime, je t'adore et nous t'adorons ensemble pour qui tu es. Viens à notre rencontre. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.